RMC Intégral Sport, Martial Fernandez.
Il est 20h05, bienvenue sur RMC. Si vous nous rejoignez, l'Intégral Sport jusqu'à 21h. Et c'est comme ça tout l'été. Et on va parler Tour de France. C'est comme ça jusqu'à dimanche, tous les soirs. Avec Luc Leblanc, Thierry Bourguignon, bonsoir et rebonsoir messieurs.
Salut Martial, rebonsoir Thierry.
Rebonsoir. Le 32-16 est ouvert évidemment pour toutes vos questions et puis le compte Twitter et le hashtag RMC Live. Luc, Thierry, je vais rappeler, c'est la coutume quand même pour ceux qui nous rejoignent, qui n'auraient pas suivi cette étape dans l'Intégral Tour cet après-midi. La deuxième victoire d'étape sur ce Tour 2014 pour le Polonais Rafał Majka de l'équipe Tinkoff Saxo devant l'Italien Visconti à 29 secondes. Nibali, le maillot jaune, troisième à 46 secondes, juste devant Jean-Christophe Perrault, 46 secondes. Les informations, eh bien, c'est que Thibaut Pinot, qui était troisième du général, est toujours troisième du général, mais il a perdu 54 secondes sur Nibali. Ça, c'est pas trop grave, mais surtout sur Perrault. Et du coup, classement général, ça nous donne Nibali premier. Deuxième, Valverde à 5,26 parce que lui aussi a cédé du temps sur le maillot jaune. Troisième, Thibaut Pinot, qui est à 34 secondes donc ce soir de Valverde. Et quatrième, Jean-Christophe Perrault, qui est à 42 secondes de Valverde et à 8 secondes seulement de Pinot. La bagarre est toujours là pour le podium et on va se régaler demain entre Pau et Otakam. Le 32-16, Michel est avec nous. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir Lucio. Bonsoir Bourgui.
Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bon les gars, je vous écoute là depuis pas mal de temps et je suis pas tellement d'accord avec vous sur l'étape de demain. En fait, et d'ailleurs si on écoute Thibaut Pinot, c'est la même chose. Tout le monde nous dit oui, il faut attendre le pied du dernier col pour attaquer. Bon, quand on regarde Thibaut, il faut qu'il prenne au moins 2 minutes sur Valverde demain s'il veut être tranquille sur le contre-la-montre. Bon, Perrault peut-être un peu moins, mais ce serait pas mal aussi qu'il prenne un peu de temps. Et j'ai regardé les étapes qui sont arrivés à Otakam. Bon, en 94, Lucho, tu gagnes, mais il faut remonter à peu près à la 15e place pour trouver quelqu'un à 2 minutes, et c'était une course de côte, puisque jusque-là, c'était plat. 96, c'est à peu près pareil, il faut remonter à la 10, 15e place pour trouver un premier coureur à 2 minutes. Bon, en 2000, Ochoa fait un numéro, mais derrière, c'est pareil, et 2008, il passe par, bon, il y a un peu plus d'écart, mais ça passe par le Tourmalet, etc., et donc ça bouge avant. Donc je me demande si vous faites pas tous une erreur et qu'il faudrait pas profiter des 4-5 derniers kilomètres du Tourmalet avec des forts pourcentages pour faire péter Valverde. Parce que ça fait,
le problème de on fait pas d'erreur. Quand tu regardes un petit peu le sommet du Tourmalet et ce qui reste avant d'aborder le pied d'Otakam, tu as toute la descente, le replat par derrière et tu as vent de face. Demain, tu as un vent de face. Alors, moi, je veux bien que Jean-Christophe Perrault attaque dans le Tourmalet ou Thibaut Pinot, mais ils prennent des gros risques parce qu'il y a quand même pas mal de descentes et il risque d'y avoir quand même des équipiers de Valverde qui risquent d'être avec lui. Et un Thibaut Pinot tout seul dans le Tourmalet, bien sûr qu'il peut partir tout seul, mais il y a encore du taf derrière lui.
Si tu attends le pied pour Valverde, à l'expérience, si ça fait 2-3 jours qu'il est à chaque fois sur le fil de rasoir, chaque fois quand il y a des pourcentages, et il arrive à l'expérience à revenir, et moi j'ai peur que ça fasse pareil demain, quoi.
Ouais, ouais. C'est pas la même montée, hein. Il peut se couper aussi à force de se raser de près, là, comme ça, à chaque fois. Mais franchement, il y a que les concours de circonstances, un concours de circonstances qui fait qu'un fait de course dans le Tourmalet qui fait que les gars vont s'attaquer. C'est sûr que si Valverde montre des difficultés avant la Mongie, par exemple, ben ça va, les autres automatiquement vont s'allier pour l'écarter et vont rouler un peu plus fort, vont forcir un peu l'allure de la montée, et ça se fera automatiquement. Mais une personne attaquée, quand on connaît le parcours, moi je veux bien, hein, le mec, comme dit Lucho, le gars qui attaque au sommet du Tourmalet pour aller à la victoire, il est pas rêvé. Hein.
Ouais.
On l'a vu par le passé d'ailleurs. Hein. Il y a un long de Saint-Sauveur. Il y a on est sur des faux plats.
Il y a 15 kilomètres.
Et ben ouais, on est sur des des faux
ouais,
pas
mais si tu veux, t'as,
avec voilà. dans la gueule. Donc c'est impossible. Impossible.
Et je pense pas qu'il va prendre le risque. Après, il y aura certainement des rounds d'observation dans la montée de du Tourmalet, en passant la Mongie. Alors bien sûr, si peut-être Thibaut Pinot voit que Valverde, il a un coup de moins bien, ou Bardet ou Perrault, peut-être que les Français vont attaquer. Mais très honnêtement, pour faire l'écart demain, de toute façon, s'ils n'attaquent pas au pied. S'ils attendent les 4-5 derniers kilomètres, Valverde va fonctionner comme aujourd'hui. Il aura un équipier à ses côtés et il va réduire l'écart après dans le final. Donc la prise de risque, il faut pas qu'il la prenne à 5 kilomètres du sommet. Hein. Il faut qu'il la prenne d'entrée au pied, quoi. Il faut faire pif, pif, paf.
Qui fera le premier pif, c'est toute la question.
Ouais, pif, paf. Ouais,
non, non, mais il vaut mieux faire pif. Non, mais bon, ceci dit, Thibaut doit réagir demain. Il veut monter sur le podium, il doit prendre le risque. Quitte à tout perdre, tant pis, au moins il aura pris le risque et il n'aura pas de regrets par la suite. Wow. Toujours pareil, on peut pas vivre avec les regrets après, quoi.
Non, c'est mais ça, le jour, mais pour toi, le risque, c'est le pied du dernier col, quoi. C'est pas avant.
Ben oui, mais tu sais, en 13 km et demi, avec les passages qu'il y a dans Otakam, tu peux faire 2 minutes
sur Valverde, il y a quelques équipiers qui, c'est difficile, hein, 2 minutes, ça vient pas comme ça.
Ouais,
hein.
Mais ça fait 2 jours que Valverde, il a la limite d'exploser.
Et c'est lui qui va en mettre une demain, tu vois.
Bon, merci Michel,
merci
de nous avoir
appelé
au 32-16. Vos réactions aussi, hein, bien sûr, sur le compte Twitter de hashtag RMC Live, envoyez vos questions. On a Francis, beaucoup d'appels là ce soir. Francis au 32-16, salut Francis.
Oui, bonsoir
salut
à tous.
Francis.
Bonsoir Francis.
Je suis comme tout le monde, je souligne la performance des deux jeunes, parce que je crois qu'on oublie quand même une chose, il faut le répéter sans cesse, ce sont de très très jeunes coureurs.
Pinot et Bardet.
Oui. Voilà, très très jeunes, donc des performances déjà extraordinaires à leur âge. Et moi je suis content, évidemment, content pour eux.
Pourtant vous êtes triste quand vous parlez.
Non, mais je suis pas triste. Non, du tout. Au contraire, c'est vraiment un tour passionnant. Et je crois que là, on a deux vrais futurs champions. Et ma question, justement, elle était de savoir, d'après vous, quelle était la marge de progression? Parce que forcément, elle existe à cet âge-là. Lorsqu'on est à 22, 23 ans, déjà à ce niveau-là, tous les espoirs sont permis. Voilà. Et moi, je voulais savoir quel type de coureur, par exemple, était un Hino à leur âge. Est-ce qu'il était plus fort ou est-ce que
on peut pas faire la comparaison à tirer avec Bahrain.
Oui, voilà, on en parlait tout à l'heure avec Cyril. Ouais. On parle en citant Hino, en citant Merckx, c'est des exceptions.
C'est des 5 vainqueurs, 5 fois.
Les exceptions, ben forcément, Cyril le disait, à 20 ans, à 21 ans, il était persuadé que... Alors bon, peut-être que maintenant c'est facile de le dire, mais il montrait des capacités énormes pour leur âge et ils avaient, du moins les directeurs sportifs, avaient beaucoup d'ambition pour eux. Donc ils savaient que c'était des surhommes, c'est jamais un surhomme, mais des champions. C'est la trace des champions, ça, de toute façon. Ce qui fait la différence entre un bon coureur, un très bon coureur, et un mec exceptionnel.
De toute façon,
il y en a 5 qui ont gagné.
Un mec comme le Blaireau, Indurain, Anquetil, Merckx, et tout ça, il y en a un par décennie et encore. Donc voilà, après, avoir toutes les... Ouais. Oui, allez-y.
Oui, donc d'après vous, en fait, on pourrait peut-être les comparer à un coureur comme Nibali dans le potentiel.
Je pense que c'est de très bons coureurs. Ils sont en train de progresser. On savait déjà qu'ils avaient beaucoup d'aptitudes et on attendait beaucoup sur ce tour de Bardet et de Pinot, ils ont confirmé et après ils vont prendre conscience de leur force et confiance en eux, ça va peut-être leur donner encore un peu plus d'assurance.
Et Nibali, 29 ans, il gagne son premier grand tour, le Tour d'Espagne, à 25 ans.
Non, mais déjà, quand on veut gagner le tour, il faut être bon partout d'entrée. Voilà. Après, oui, tu as toujours une petite marge de progression, mais il faut être bon au chrono, il faut être bon sur le plat, il faut être très bon au chrono, le chrono, le plat, la montagne. Il faut déjà être doué dans ces trois domaines. Voilà. Après, tu as toujours une petite marge de progression et tu peux toujours progresser. Mais le problème, c'est que quand tu as trop de déficits à un moment donné, par exemple en descente, comme Thibaut, ben, il faut qu'il le travaille, il faut qu'il le travaille. Il a un petit peu de déficit aussi au niveau du chrono. Ça, il faut qu'il travaille énormément.
Ah, descente, et le Blaireau n'avait pas tous ces...
Oui, non, mais oui, mais il doit le travailler encore. Mais on a vu qu'il avait travaillé. Mais si tu veux, la comparaison que je fais à Bernard Hinault, c'est que Bernard Hinault, il était très très bon partout et en étant très bon, il a encore progressé dans tous les domaines. Donc voilà. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu as trop de déficit d'entrée, voilà, à un moment donné, est-ce que tu peux gagner le tour ou pas, ou alors tu restes toujours en te disant, ben ouais, je vais faire deuxième ou troisième du tour. Voilà. Des déficits quand ils sont trop importants au départ pour gagner un grand tour, c'est toujours, tu peux toujours combler un certain déficit, mais en totalité, c'est pas évident.
Merci, c'est Francis. Merci, oui. Francis, d'avoir appelé au 30.
Au revoir à tous.
Au revoir,
bonsoir,
Francis.
Au revoir.
C'est Patrick, maintenant, qui est là au 32C. Salut, Patrick.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir, Patrick.
Il veut parler de la FDJ, Patrick, ce soir.
Oui, parce que, bon, la FDJ, de Thibaut en particulier, mais bon, hier, alors si on se posait la question de savoir combien Thibaut allait reprendre à Valverde, combien il allait reprendre à Bardet, voire à Nibali. Et puis, la vérité d'un jour et pas celle du lendemain, on se rend compte cette année.
C'est chaque année pareil, hein. De toute façon, à part, pour des grands champions qui sont toujours aussi forts là, d'une journée sur l'autre.
Mais alors moi, je me demande s'il n'y a pas eu, je vais pas dire une erreur de stratégie, parce qu'il y a les jambes, bien sûr, qui parlent. Hier, la FDJ a parfaitement manœuvré avec, en particulier, Jérémy Roy, qui était devant et qui a pu faire la descente avec Thibaut. Est-ce que, si vous étiez à la place de Marc Madiot, demain, quelle serait votre stratégie? Est-ce qu'il faudrait pas envoyer quelqu'un en éclaireur devant? Est-ce qu'il faut durcir la course dès le Tourmalet? Là, j'entendais Thibaut qui dit, je vais attendre la dernière ascension. Mais est-ce que pas se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui, quoi?
Ouais. De toute façon, la stratégie demain, s'il y a un coup qui part devant, autant placer un équipier de Thibaut à l'avant de la course, un Jérémy Roy, comme ça s'est fait hier. Comme ça, au moins, il est protégé en cas de pépin devant quand Thibaut risque de rattraper Jérémy. Après, Thibaut a un autre équipier, j'ai mangé son nom, Thierry Janson, voilà, Janson, qui est super. Mais alors franchement, il fait un travail extraordinaire.
Il l'a ramené dans la descente.
Voilà, et attends, mais il a fait une descente aujourd'hui extraordinaire pour revenir au pied du Pladadé et tout, et donner un coup de main à Thibaut et rouler à bloc comme il a fait. Il a un super équipier à ses côtés, donc c'est de bon augure pour demain. Après, il faut que Thibaut ait les bonnes jambes comme hier. Voilà, c'est tout. Mais la stratégie, c'est vrai que s'il y a une échappée d'entrée, placer que ce soit un AG2R devant pour AG2R, pour Bardet et puis Perrault, et puis bien sûr un coéquipier à Thibaut Pinot devant, comme Jérémy Roy, qui est en super condition en ce moment. Mais ça, c'est une stratégie à adopter, c'est évident.
De toute façon, je pense qu'ils vont, le faire. Hein.
Oui, ils vont le faire, c'est clair.
Merci
Patrick, d'avoir appelé au 32-16. À bientôt, Patrick. Vous avez aussi le compte Twitter et le hashtag RMC Live. On peut dire ce soir quand même, Thierry, Luc, Jean-Christophe Perrault, il est quatrième au général, mais virtuellement, il est deuxième. Si ça reste comme ça demain soir.
Ça reste comme ça demain soir, troisième.
40 secondes sur Valverde,
deuxième,
il reprendra.
Je suis d'accord avec Luc. Valverde, il est pas mort. Attention.
Ah non.
Attention, loin de là. Et puis la deuxième place, il la veut tellement qu'il va se sortir les tripes pour ce chrono. Alors après, Jean-Christophe, ça va être la même chose. Un mano-mano, je pense que je ne sais pas. Quelle est la différence des deux coureurs sur un chrono comme ça? Je les vois très proches.
Pour moi, ils sont proches. Mais moi, je suis pas d'accord avec Cyril qui disait que de toute façon, Perrault allait passer Valverde pour la deuxième place. 42 secondes, il y a entre les deux. Valverde, il est quand même champion d'Espagne du chrono, quoi. C'est pas un manchot. Jean-Christophe, même si c'est un super au chrono, pour moi, tous les deux, ils sont kiff-kiff. Donc, il vaut mieux avoir un matelas supérieur à Valverde au classement général et que Perrault passe Valverde demain et prennent la deuxième place et un petit peu d'avance sur sur Valverde, ça sera peut-être plus facile à gérer, parce qu'en plus au
oui,
chrono,
il aura les chronos de Valverde,
ouais, mais voilà, mais stratégiquement,
passages, ouais.
Stratégiquement, il vaut mieux qu'il soit deuxième avant le chrono, parce que Valverde automatiquement va partir avant Perrault, donc Perrault aura déjà, je dirais, les temps de Valverde, ce qui n'est pas négligeable, quoi. Mm-hmm. Après, tu te bases sur les temps de celui qui part avant toi, donc stratégiquement, voilà, il a les oreillettes, Valverde, il part derrière Perrault. Peut-être samedi, hein, Thierry. C'est stratégiquement, c'est mieux d'être devant, quoi. Donc sur un chrono, ça c'est indéniable. Hein. Et puis au contraire, comme ça, il sait mieux gérer son chrono. C'est mieux gérer son chrono. Donc bon,
de toute façon, il n'y a rien d'acquis.
Il y a rien d'acquis.
Hein.
Bon,
je pense,
ouais,
que demain, tout ce qui est pris est bon à prendre. Hein.
Oui, ouais, voilà, exactement. Donc de toute façon, moi, je vais dire, demain, je serai à la place de Perrault. Je fais pas de sentiments. Hein.
Mais non. Et puis moi, je suis persuadé. Je ne sais pas pourquoi, mais si. Je vois bien AG2R et même peut-être FDJ dans la montée du Tourmalet vers la Montgis là, bien regarder.
Ouais, mais ils vont le regarder.
Monter
ça,
un bon train, ouais. Et tester déjà
Valverde. Un petit peu,
Valverde. Ouais. Et si Valverde montre un peu
le flingue.
De faiblesse,
bah c'est sûr qu'ils vont durcir la course, et puis ouais. Après il va avoir une alliance de circonstances jusqu'au pied de Otakam.
Pierrick est au 32-16. Bonsoir Pierrick.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Alors, ma question était un peu hors sujet par rapport à ce que vous dites là. J'ai entendu le directeur sportif de Sky. En plus, lu dans un papier, qu'il souhaitait gagner le Tour de France avec un coureur français. Ma question est simple, entre un coureur comme Romain Bardet et Pinot, pour vous, lequel serait le mieux placé pour réaliser un exploit comme celui-ci à l'avenir?
Ah, les deux sont très très proches, sans rire. On a vu tout le tour un mano-mano entre Thibaut et puis Romain. Romain est peut-être j'aurais tendance à dire un peu plus réfléchi, mais un peu plus fougueux sur le vélo. Donc ils sont très proches, ils sont très copains. Moi j'aurais vraiment des difficultés à choisir l'un.
C'est difficile de faire une différence, oui, entre l'un et l'autre. On pourra peut-être faire plus de différence entre l'un, enfin, entre Romain et puis Thibaut.
Il y a le chrono qui va être partagé, voilà.
Samedi, voir de savoir exactement comment ils se tiennent au niveau du chrono.
Oui,
quoi.
Voilà. Oui, parce que on ne sait pas en fait ce qu'ils valent exactement. Dans l'état d'esprit du dernier chrono du Tour de France, on ne sait pas si ils vont pas avoir trop de pression, s'ils vont bien supporter justement cette pression, s'ils vont pas s'effondrer complètement. On ne sait pas ça. On les a pas encore vus dans ce cas de figure là.
À ce niveau-là, moi, je pense que la pression, ils la tiennent, hein, l'un et l'autre, hein, parce qu'ils l'ont depuis le début depuis la planche des belles filles, où on a défini Romain comme le leader de AG2R et puis Pinot le leader de la FDJ. Et là, ils ont pas failli à leur tâche. Ils ont toujours été là dans les rendez-vous. Ils ont toujours eu la niaque et l'envie d'aller.
Ils ont pas craqué. Hein,
de l'avant.
Ils ont pas craqué.
Non, je pense que on verra la juste valeur, comme vous le dites, de ces deux jeunes sur un chrono de la dernière semaine du Tour. Et ça,
on va le découvrir, ça.
C'est incomparable. Il n'y a que là qu'on voit les choses comme ça.
Déjà, ils sont faits pour les grands tours. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'ils ont une très très bonne récupération et qu'en dernière semaine, là où c'est la plus difficile, ils sont présents. Et ça, c'est vachement important pour l'avenir.
Voilà. Merci, Pierrick.
En supporter du vélo français, c'est vrai qu'on... On a envie de
euphorique dans l'idée de se dire que on va gagner le tour dans les deux ou trois ans. Il faut bien savoir une chose. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Frome n'est pas là, Contador n'est pas là, Quintana n'est pas là. Et il y en a d'autres qui ne sont pas là. Donc il y en a encore un ou deux qui ne sont pas là. Donc le tour sera complètement différent de celui de cette année. Donc il y a, c'est vrai qu'il y a une opportunité à prendre extraordinaire cette année. Donc voilà, il faut la prendre. Après, je dis pas que ce que les Français ont fait cette année ne pourront pas le faire l'année prochaine, parce qu'il y aura Froome Contador, mais ça sera une course complètement différente. Il y aura des purs grimpeurs qui vont vous faire des fractionnés dans les cols sans arrêt. Ils vont pas se faire de cadeaux, quoi. Donc il va falloir retenir le rythme des fractionnés, des à-coups, et ça c'est jamais évident. Donc il va falloir encore beaucoup bosser.
Merci Pierrick de nous avoir appelé au 32-16. Thierry, Luc, juste par rapport à, on se parlait tout à l'heure des contre-la-montre avec Perrault Valverde, on a une petite remarque sur le hashtag RMC Live. On a Jules qui nous dit, sur le Tour du Pays Basque, Perrault avait pris 27 secondes à Valverde sur un contre-la-montre de 25 km. Bon, c'est pas après 3 semaines de course, mais bon, c'est une info à prendre.
Oui, voilà, c'est au bout de 3 semaines, la motivation du podium du Tour. Il y a beaucoup de paramètres. Ouais, bon,
tout
après,
à fait.
Après voilà, ça va être très
ça
serré.
Comment
de toute
était
façon.
Valverde physiquement? Est-ce qu'il était en pleine euphorie ce jour-là sur le Pays Basque, ou voilà, c'est je crois que ouais, bon, c'est déjà une indication. Ouais.
Mourad au 32-16. Bonsoir Mourad.
Oui, bonsoir. À toute l'équipe, bonsoir à mes auditeurs. Moi, je voulais intervenir pour le prix de la combativité. Bon, c'est un jury qui se présente avec différents jurés, mais je m'interroge sur l'attribution aujourd'hui à Romain Bardet, qui a attaqué, certes, mais bon, c'est un peu son obligation par rapport à sa situation, aussi bien au classement des jeunes qu'au classement général, alors que Vasil Kiryenka, je pense, a fait un effort.
Mais écoutez, la question que vous posez, je me suis exactement posé la même question quand j'ai vu Romain Bardet en train de prendre le trophée du plus combatif aujourd'hui. Et moi, je l'aurais plutôt mis sur Kiryenka, qui a fait quand même une grande course, qui a insisté. Et c'est vrai que c'est bizarre. Et parfois, c'est bizarre de voir ça. J'ai rien contre Romain, bien au contraire. C'est un attaquant, il fait un super tour et tout. Mais Kiryenka, il était devant depuis très longtemps. Il a insisté, il est reparti devant. Je l'aurais plus attribué à Kiryenka, moi. Mais enfin, bon, voilà.
Ça me semble logique parce que Bardet défend quelque chose.
Ouais, voilà. Bardet, c'était stratégique. Voilà.
Ouais. C'est juste que ce prix de la combativité, ce prix de la combativité, juste pour rappeler, c'est des suiveurs du Tour qui l'attribuent à quoi 4-5 km de l'arrivée de l'étape. Hein, ouais. Les votes sont clos à ce moment-là.
Voilà. Ouais.
Merci Mourad de nous avoir appelé au 32-16. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Bonne soirée. Nous, on va se retrouver demain, messieurs. Belle étape.
Oui. Hein. Martial, simplement. Oui. Attends, on est tous dans le même bateau sur le Tour. Donc, comme ils sont dans la descente, et comme le disait Christophe tout à l'heure, ils écoutent RMC, je leur fais un bon coucou, un gros coucou, des gros bisous à tous.
Il y en a qui sont bloqués dans la descente.
Voilà, toute la caravane. Tu sais, bon, Festina, ils ont envoyé un truc. Voilà, Crédit Lyonnais, Chris et machin. Je peux pas citer tout le monde, mais je les embrasse tous très fort parce qu'on se double tous les jours et ils font un sacré boulot parce qu'ils finissent très tard, ils se lèvent de bonne heure et tout.
Et tu dis ça parce que tu vas descendre vite, toi, non?
Non, mais j'ai beaucoup de pensées pour eux parce que j'ai laissé la voiture en bas et puis c'est pas facile. Ils vont rentrer très tard à l'hôtel et demain matin, ils doivent se lever très tôt pour emmener les voitures au départ et les camions et je vais dire, c'est pas évident. Même s'ils sont payés, c'est leur boulot, mais c'est pas évident.
On les salue. Et demain, l'intégral tour sur RMC à partir de 14h. À demain, messieurs.
À demain. Salut Bourgui, salut Martial.
Ciao.
Nous, on est ensemble jusqu'à 21h pour l'intégral sport. Je vous donne deux infos au foot. Déjà, petit match amical en ce moment entre le PSG et Nice du côté de Béziers. C'est Paris qui mène 2-0. Et puis, information transfert de la soirée, c'est Christophe Jallet qui quitte Paris, justement. Et c'est officiel, il s'engage pour 3 ans avec l'Olympique Lyonnais. Dans quelques instants avec nous, Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France de basket. Et puis, on ira du côté de Kazan. En escrime, c'est en Russie, parce qu'il y a une équipe de France masculine d'épée, championne du monde. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.